fond qui remonte à la surface, dixit Victor Hugo. Sans doute parlait-il de littérature, mais on peut également appliquer ce constat à la peinture. Quel fond se cache derrière la forme, les formes picturales ? Vaste sujet que nous aborderons peut-être ce soir avec mon invité, J.B. Boulbin. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, contrairement à ce que mon introduction laissait entendre, ça ne va pas être une longue et ennuyante dissertation sur les arts. L'idée, c'est de parler de ton parcours. Donc, pour commencer par le commencement, comme je dis toujours, à quel âge, tout d'abord, as-tu commencé à peindre ? À quel moment cela t'a-t-il, pris ou gardé autant d'importance dans ta vie, cette activité ?
Alors la peinture en soi, c'est vraiment arrivé lors de mes études, du coup à l'université, à la fac en arts plastiques. Mmh. Du coup, j'ai fait 5 ans à Rennes 2 et je suis arrivé à Paris là en début d'année. Sinon, j'ai toujours peint de manière générale quand j'étais plus petit, mais c'était plus de l'ordre de l'amusement. Je me suis perfectionné vraiment pendant ces années d'études. Premières années, c'était vraiment des années de test où je testais plein de styles différents, notamment pour les portraits ou les corps humains. Et petit à petit, je me suis spécialisé dans mes peintures, dans mon domaine, tout ça en mélangeant couleurs et formes figuratives.
Donc ce qui ressemble à ce que tu fais aujourd'hui.
Exactement.
Et alors, tu disais justement, tu as suivi un cursus en art plastique. Justement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on vous apprend ? Parce que c'est finalement, est-ce que quand tu arrives dans ce cursus-là, tu sais peindre, tu sais pas peindre ? On vous apprend la technique, j'allais parler de mise en scène, mais presque la perspective, tout ça. Comment ça se passe ? À quel niveau on commence quand on arrive à ces études-là ?
Alors, avant toute chose, en arrivant à la fac, du coup, tout le monde ne sait pas forcément peindre, dessiner ou autre. Ça touche un peu tout type d'art. Il y a aussi la performance, la danse. Mmh. Et en fait, on est plus mené, durant des ateliers, à tester de différentes techniques, du moins pour la première année. Et ensuite, on va choisir des ateliers. Donc, on avait peinture, dessin, performance, cinéma, photo, etc. Moi, je prenais notamment peinture et dessin. C'est ce qui me convenait le mieux, entre guillemets. Mmh.
Donc, rapidement, tu t'es spécialisé là-dedans
Ouais, dans la peinture. Surtout la peinture acrylique. C'est devenu ma meilleure amie maintenant. On passe beaucoup de temps ensemble. Et ouais, on s'entend super bien. C'est vraiment une matière qui glisse sous le pinceau. Pour mélanger les couleurs, ça se mélange vraiment très bien.
Ok.
Et ça sèche assez vite, ce qui est assez pratique aussi. Et le résultat est plutôt pas mal.
D'accord. Et justement, tu parlais de tes... les techniques que tu utilises de façon plus spécifique. Bon, c'est toujours un exercice un peu abstrait à la radio de parler de peinture et de technique. Mais foncièrement, j'allais dire fondamentalement, quand tu abordes une peinture, comment ça se passe ? Tu pars avec le sujet en tête. Tu connais déjà comment ça va être disposé sur le tableau ?
Ouais, plus ou moins. Alors, avant toute chose, je crée moi-même mes châssis en bois.
D'accord.
Ensuite, je viens prendre des draps en coton que je viens graffer derrière pour créer ma toile. Ensuite, je viens...
Donc, le talent de créateur commence avec la structure en bois. Et parce que sinon, il y a beaucoup de... Enfin, j'imagine, c'est l'image que j'en ai, il y a beaucoup de peintres. Tu peux acheter les toiles directement.
Oui, bien sûr.
Okay. Et toi, tu ressens le besoin de te...
Ouais, j'aime bien. Et puis, du coup, ça touche un peu la menuiserie. Franchement, c'est plutôt chouette à faire. Et j'aime bien l'idée de créer aussi tout de A à Z. Bon, certes, la peinture, je l'achète. Peut-être qu'un jour, je la ferai moi-même, mais on verra ça plus tard.
Ça, c'est une autre paire de manches quand même, faire sa propre peinture.
Mais du coup, ouais, je viens choisir une couleur préalablement, que je viens disposer en fond. Et ensuite, je viens dessiner mes personnages et je viens incorporer soit des animaux,
d'accord,
notamment des oiseaux. J'aime beaucoup les oiseaux.
Okay.
Ou alors des objets du quotidien, des cafetières, des verres de vin, etc. Et en fait, les thèmes qui me traverse l'esprit, parce que du coup j'ai toujours une idée préalable dans la tête, c'est une inspiration soit de la rêverie,
d'accord,
parce que je passe beaucoup de temps à rêver, je sais pas, ou juste, enfin ça m'inspire énormément, et puis sinon un peu l'inspiration de moi-même, ma famille, mes amis,
d'accord,
et quelques artistes aussi qui m'inspirent pour certaines créations, mais dans l'idée, la toile, enfin, du moins ce que je veux représenter, est déjà créée dans ma tête avant que je le représente
Tu en as
en
déjà
peinture.
une image très spécifique
Ah.
avant de t'attaquer
Exactement. Après, il y a toujours l'idée du hasard. J'ai une idée en tête, j'essaye de le retranscrire, mais il y a toujours cette idée d'hasard, mais qui est super intéressante, enfin, comme le hasard par accident, où tu essayes de créer quelque chose, tu n'y arrives pas, et finalement, tu te
La
rends compte que le
sérendipité, on
résultat
pourrait
est
dire
plutôt pas
presque.
mal.
Ouais. Et pour ce qui est du point de vue de la technique à proprement parler, tu utilises quoi? Tu parlais de pinceaux. Est-ce que tu utilises uniquement des pinceaux? Est-ce que tu tentes justement d'autres moyens d'expression? Comment ça se passe? Même finalement dans le choix des couleurs, puisque là encore c'est un peu abstrait pour l'instant, mais d'en parler. Mais comme tu le disais, tu fais appel à beaucoup de couleurs finalement pour faire dialoguer les couleurs entre elles. Comment est-ce que tu raisonnes? Couleur chaude, couleur froide, ça c'est toujours la taxonomie qu'on retient, mais je suis très curieux de ça.
Bah déjà pour créer mes personnages, je vais d'abord créer le contour pour vraiment voir la limite. Ensuite, je vais incorporer plein de couleurs parce que j'aime beaucoup travailler avec la couleur. Donc, je viens rajouter des petits traits les uns sur les autres, je les juxtapose un peu. Et je viens contraster du coup avec du noir, histoire de créer un peu de relief, de volume sur ces personnages. Histoire de. Enfin, que si on les voit de loin plutôt, on voit qu'il y a une sorte, enfin,
Une certaine profondeur.
une certaine profondeur, ouais, et qu'ils ne soient pas plats.
D'accord.
Et du coup, il y a aussi ce jeu de contraste avec la couleur où on retrouve vraiment plein de couleurs vives, toujours dans un sens unique. Il y a une sorte de circulation, de fluidité qui se crée du coup avec ces couleurs. Que je viens contraster du coup avec le noir, histoire de casser un peu l'idée de la couleur. Du coup, c'est un contraste entre couleur et côté sombre un peu. Et puis c'est vrai que mes personnages sont un peu mélancoliques. On retrouve souvent une moue un peu triste, ils ont l'air un peu perdus. Et voilà.
Oui, j'avais remarqué, c'est un mot que tu aimes bien employer pour parler de tes peintures, alors que paradoxalement, effectivement, ce sont des choses très, très colorées de prime abord qui peuvent paraître très, très vives et très chatoyantes avec des animaux, comme tu disais. Et finalement, toi, c'est ce jeu entre presque la tension entre ces couleurs-là et le noir qui font que c'est ça pour toi qui donne la mélancolie. C'est ce que tu essayes de faire justement en opposant un peu, comme tu disais, les couleurs très vives avec cette part de noir.
Ouais, exactement. Et au-delà de ça, du coup, j'aime beaucoup jouer avec les contrastes. Comme par exemple ces personnages qui sont un peu, comment dire, fantastiques, enfin presque fantomatiques, où je viens les contraster avec par exemple des oiseaux qui vont être dessinés, enfin qui vont être peints, excusez-moi, de manière très douce, plutôt fluide, où j'utilise beaucoup moins de couleurs, ça va être plus être tiré du réel. Tandis que ces personnages sont plus tirés d'un monde un peu irréel.
De la rêverie, comme tu disais à
Exactement, ouais.
l'instant, ouais. Ok. Et alors, tu mentionnais quelque chose que je trouve intéressant. Tu parlais d'artistes qui peuvent t'inspirer, justement. Est-ce que toi, tu as des influences spécifiques, que tu as des choses que tu as découvert, alors soit sur les bancs de l'école, soit avant, des choses qui te guident un peu, qui t'inspirent?
Ouais, il y a plusieurs artistes qui m'inspirent, avec qui je ressens quelque chose de plutôt fort. Enfin, je pourrais par exemple parler de Gérard Garrouse qui était exposé au Centre Pompidou.
Tout à fait.
C'est pareil. Enfin, Gérard Garrouse travaille vachement avec la rêverie où il va venir incorporer du coup des personnages souvent qui sont tirés de lui-même. Où il va être représenté de manière un peu hybride, où on retrouve soit des personnages ordinaires, des personnages mythiques, animalesques. Et à côté de ça, il va venir contraster avec le paysage qu'il y a autour, toujours en créant une sorte de jeu. Ce qui est super intéressant, c'est que en tant que spectateur, on est toujours un petit peu perdu parce qu'on essaie de re retrouver les énigmes qu'il y a dans ces tableaux, parce
Il y a un
qu'il.
aspect presque ludique, tu dirais.
Exactement, ouais.
Toi, c'est quelque chose que tu essayes de faire aussi dans ton œuvre.
Plus ou moins. Du moins, je. je veux pas imposer une idée au spectateur. J'essaye justement de laisser libre cours à leur imagination. Mais c'est vrai que, par exemple, mes personnages sont plus tirés d'une scène de vie où je veux les mettre soit sur une table, une chaise, qu'importe. Enfin, on voit que c'est une scène de vie, mais on peut toujours s'imaginer ce qui se passe avant, après. C'est vraiment un moment figé
D'accord. Presque une
de ce
nature
moment.
morte, on dirait, ou
Exactement, ouais.
paradoxalement, alors que c'est pas uniquement l'image d'Épinal qu'on se fait de la nature morte avec des coupes de fruits, mais c'est un peu ça l'idée
Ouais.
de figer cet instant. Et
Exact.
donc ouais, tu parlais de Gérard Garrot, ça c'est pour toi quelqu'un qui a une influence assez forte.
Ouais.
Est-ce que tu en as d'autres ou pas forcément. On peut aussi
Je
cultiver.
pourrais parler sinon de Francis Bacon, un artiste britannique que j'admire énormément. Lui, au contraire, enfin contrairement à Garouste, il va essayer de casser l'idée de la figuration. Il va représenter juste la figure. Et par contre, les corps, ça va être des membres juxtaposés où on est un peu perdu. On ne sait pas où se situe le bras, la jambe. C'est vraiment un ramassis de ces parties du corps
Ouais, il y a cet
réunies.
aspect de oui aussi de comme tu disais de l'anatomie humaine qui est très présente, qu'on retrouve aussi toi. Et justement,
Exact.
c'est une question qui est intéressante, puisque on parlait de tout ce qui concerne la perspective. Est-ce que toi, quand tu parlais à l'instant de Francis Bacon, il y a des artistes qui sont très soucieux de représenter l'anatomie humaine telle qu'elle est finalement, d'autres pas du tout. Est-ce que toi, c'est quelque chose justement que la jambe, pardon, et le bras soient proportionnels avec la taille de la tête? C'est quelque chose auquel tu fais attention ou pas particulièrement? Ou justement, tu parlais, on pourrait dire, étant donné que je me situe dans le domaine de la rêverie, je laisse un peu ça de côté. C'est quoi ton point de vue là-dessus?
J'essaie de me rapprocher au plus proche quand même de l'anatomie du corps humain. Cependant, j'aime bien l'idée de pouvoir étirer certains membres, retrouver par exemple des doigts plus longs qu'ils ne devraient l'être entre guillemets en réalité, ou alors justement avoir une tête un peu plus imposante que le corps, ou aussi représenter juste certaines parties du corps. C'est que dernièrement, là, j'ai fait une peinture où on a juste le visage et les deux
D'accord.
bras, mais
Ok.
on n'a pas le reste du corps.
Puisque c'est sur cette partie-là du corps et de l'anatomie que tu souhaites te concentrer, donc vraiment
Exactement, ouais.
tu as ce qu'on appellerait en photo un gros plan.
Ouais.
Et alors justement dans ton, enfin, ça rejoint beaucoup de choses qu'on a déjà abordées, mais dans ton portfolio, tu parles de tes personnages, de ces personnages que tu mets en scène comme alors une extension de toi-même dans le monde de la rêverie, une forme d'échappatoire. À quel point finalement, alors tout ce qui concerne la rêverie, on vient d'en parler, mais quand tu parles d'une extension de toi-même, finalement quelle est la part, j'allais parler d'autobiographie dans ces personnages que tu peins, à quel point finalement tu te peins toi-même quand tu les peins?
Déjà, avant toute chose, je voudrais juste préciser que le book, du coup, il est pas en public. Enfin, je l'ai juste
D'accord.
envoyé, du coup, pour des appels à projets. Mais bon, c'est peut-être, enfin, peut-être qu'un jour je pourrais pas le partager. Et du coup, effectivement, je parle d'une extension de moi-même, comme si quelqu'un pourrait écrire sur soi, comme beaucoup de personnes écrivent leur malheur, entre guillemets. Moi, c'est vrai que je passe plus par la peinture. Du coup, je vais essayer de donner une image à une sorte de tristesse, mélancolie. Cependant, toujours du coup mêlé avec le côté onirique, une extension de moi dans le sens où ces personnages sont. Enfin, comment dire? Par exemple, pour dessiner une main, je vais regarder ma main. Je vais vraiment l'observer et ensuite je vais la retranscrire du coup sur la toile. Je vais faire pareil avec mes bras, mon visage, je vais essayer de faire la même chose. Après, c'est pas forcément fidèle non plus à mes mains ou mes bras, mais j'aime bien aussi incorporer des éléments personnels, enfin. Truc tout bête comme par exemple on retrouve souvent des anneaux sur leurs oreilles comme je peux les porter là actuellement ou même des il y a certaines toiles où On les voit en train de boire du café, en train de fumer une cigarette, qu'importe, c'est un peu.
Des scènes de la vie quotidienne sur lesquelles on
Exactement.
retombe finalement. Et justement, tu parlais de lorsque tu te représentes toi-même, est-ce que justement pour tes personnages, tu fais également appel à des modèles ou pas particulièrement?
Non, du tout.
Non, du tout.
Non, pas pour les personnages. Pour les oiseaux, oui. Je regarde quand même une image sur Internet pour essayer
Joue
de.
les ornithologues, histoire de bien le représenter.
Exactement.
On en croise peut-être moins dans la rue que
Oui.
des personnes.
Oui, c'est sûr. Du coup, oui, c'est vrai que pour certains objets ou les animaux, je vais quand même plus m'inspirer d'images que je retrouve sur Internet. Mais par contre, pour les personnages, non, c'est vraiment. Je le peins directement sur la toile, je m'observe, j'observe d'autres corps aussi, mais il n'y a pas de modèle en train de, comme on l'entend, en train de poser
Oui,
devant moi
d'accord.
pendant des heures.
Le quatrième mur. L'actualité culturelle, loin de la foule déchaînée. Le dimanche soir, à 21h, sur Radio Campus Paris.
Tu racontais un petit peu ton parcours quand tu avais la façon dont tu es venu à la peinture. Ce que je souhaitais savoir également, c'est à quel stade de ta, j'allais parler de ta carrière, en tout cas justement de ton parcours, tu en es. Est-ce que tu as déjà, alors moi j'avais, pour la petite histoire, j'avais découvert tes œuvres en public puisqu'elles étaient accrochées dans, il me semble que c'est une maison associative du 9e arrondissement. Est-ce que c'était justement ta première exposition? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de présenter plusieurs fois tes œuvres, d'avoir des retours dessus?
Du coup, c'est pas ma première exposition, j'en ai fait 6 au total là.
Très bien.
La première exposition que j'ai faite, c'était avec une copine à moi. Elle s'appelle Yona Bougerolle. C'est pareil, elle est artiste peintre aussi. Et on avait fait une expo dans une ferme, dans un marché bio, excusez-moi, dans une ferme, dans le centre Bretagne.
Très bien.
Ensuite, j'en ai fait une deuxième, également dans le centre Bretagne, mais cette fois-ci tout seul. Une autre à Rennes 2, du coup, à l'université auquel j'étais. Et encore une fois avec mon ami Yona Bougerolle. C'était vraiment intéressant cette expo parce qu'on a créé nos œuvres spécialement pour cette exposition. C'est-à-dire qu'on avait chacun deux toiles à faire de 1,20 m sur 1,80 m, il me semble. Et on a chacun peint de notre côté. Ensuite, on s'est donné rendez-vous et on s'est inspiré de la peinture de l'un comme de l'autre pour recréer du coup la deuxième peinture. Et sinon, bah du coup, j'en ai fait, comme tu disais juste avant, une expo au Pige. Du coup, c'est le Point Info Jeunesse dans le 9e arrondissement.
OK.
Puis la dernière, là, c'était dans un centre d'animation Paul Valéir, dans le 9e
Dans le
aussi.
9e arrondissement également.
Exact.
Okay. Et justement, donc, dans ces cas-là, est-ce que ce sont des expositions qui bénéficient d'un vernissage en présence de gens? Comment ça se passe dans ces cas-là?
Alors, pour deux expos, j'ai fait des vernissages. Donc, j'ai invité des amis, des gens qui sont venus que je ne connaissais pas, qui étaient contents aussi de voir l'artiste, parce qu'on ne le voit pas derrière une
C'est
peinture.
vrai.
Et du coup, c'était un petit discours. Je parle un peu de mes projets, de comment je représentais un peu ces peintures. Quelle peinture j'avais choisi pour l'expo, parce que du coup j'ai aussi sélectionné certaines peintures. Et sinon, pour la deuxième, c'était vraiment des amis à moi, parce que du coup, pour la petite anecdote, je suis arrivé à Paris il n'y a pas longtemps. Du coup, on n'était pas nombreux, mais c'était quand même très sympa.
D'accord. Et ouais, donc c'est ça, ce que tu disais à l'instant, je trouve ça intéressant puisque tu dis on n'a pas toujours, enfin quand celles et ceux qui voient les toiles n'ont pas toujours l'occasion de voir le peintre. C'est vrai que c'est contrairement à des arts comme le théâtre ou des arts comme ça, il n'y a pas cet échange direct. Même toi, quand tu peins chez toi, j'imagine d'avoir le ressenti ou ce que les gens pensent de tes peintures, ça peut être intéressant pour toi aussi.
Ouais, mais ce qui est assez marrant, moi, je trouve, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois, du coup, de retourner sur les lieux auxquels j'exposais, d'écouter ce que les gens disaient sur mes peintures sans qu'ils soient au courant que c'était moi. Du coup, c'était assez marrant.
Les gens sont peut-être un peu plus sincères ou
Oui, c'est ça.
un peu moins sans filtre, un peu plus sans filtre dans ce cas-là.
Et du coup, c'était assez intéressant d'écouter ce qu'ils disaient. Mais après, ça m'est quand même arrivé plusieurs fois d'avoir des retours sur mes peintures ou avoir de bons retours, des retours aussi plus dehors de la critique. Mais justement, je trouve que c'est quand même très intéressant pour, entre guillemets, améliorer ou juste histoire d'avoir un point de vue différent parce que j'aurais peur, du moins je voudrais pas rester bloqué dans mon idée et ne pas avoir de retour non plus parce que ça, je pense que ça freinerait aussi la création et le retour des spectateurs. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est aussi l'œil du spectateur qui crée l'œuvre aussi.
Bien sûr. Oui, c'est vrai que d'autant que alors ça rejoint ce que tu disais avant, c'est-à-dire que quand c'est des œuvres avec assez peu ou voire une seule façon de l'interpréter, ça peut être assez équivoque, mais quand on se situe dans un champ un petit peu plus peut-être onirique comme tu le disais ou métaphorique comme tes œuvres, c'est vrai que ça laisse aussi la porte ouverte à pas mal d'interprétations, donc je pense que c'est intéressant de peut-être de confronter les points de vue des différents spectateurs là-dessus.
Ouais, exactement, et j'aime beaucoup aussi l'idée de laisser enfin justement l'imagination des spectateurs,
une part de mystère,
exactement. Et il y a beaucoup de peintures qui sont nommées sans titre. Et ça, c'est un choix personnel. C'est aussi pour ne pas influencer, du coup...
Pour ne pas trop expliquer ou donner trop de clés de lecture à ton audience. Et alors, justement, une partie, ça ne passe pas uniquement par là, mais quelque chose qui peut aussi entrer en ligne de compte à partir du moment où on commence à exposer ses peintures, c'est de les vendre. Est-ce que toi, tu as déjà vendu certaines de tes peintures?
Ouais. Du coup, j'en ai vendu quelques-unes déjà. Cependant, à chaque fois à chaque exposition que j'ai faite, ça n'avait pas de but lucratif. Mais j'ai eu des retours suite aux expos ou alors sur mon compte Instagram aussi où j'ai eu des commandes.
Okay.
Ou bien juste des personnes qui sont tombées sur mon compte et du coup qui m'ont demandé à acheter ces peintures.
C'est-à-dire que c'était des peintures qui avaient déjà été réalisées ou c'était des commandes spécifiques
Alors, il y a eu les deux.
D'accord.
Ouais. J'ai eu des commandes. Après, les commandes, c'était assez simple. On m'imposait juste la couleur du fond.
C'est ça que j'allais te demander, ce qu'on t'imposait. C'est-à-dire, est-ce que la personne dit, moi, je voudrais deux personnages et un oiseau ou l'inverse, c'est comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que toi, ça te bride un peu dans ta créativité ou au contraire, il y a un petit côté challenge, un petit côté création sous contrainte qui peut être intéressant?
Bah, je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que moi, du coup, on m'avait juste demandé la couleur du fond. Du coup, j'avais vraiment le choix total de la création. Mais je pense que ça peut être un frein si on me demande trop d'informations. Ou alors, au contraire, je pense que ça peut être un bon challenge. Il faudrait essayer.
Et dans ces cas-là, justement, tu parlais pour les toiles que tu as vendues. Comment, quand on est un artiste relativement débutant comme toi, comment ça se passe? C'est-à-dire que pour fixer les prix, pour de façon très prosaïque et pratico-pratique, comment ça se passe de ce côté-là? Parce que c'est vrai que l'aspect marchand de l'art, c'est quelque chose aussi qui a fini par s'imposer pour le meilleur et pour le pire. Toi, comment ça se passe par rapport à ça?
Alors moi, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Ouais. Poser un prix sur une création, je trouve ça juste vraiment compliqué. Ce qu'on me dit qu'il faut prendre en compte le temps de travail, le matériel, sauf que je pense que ça va au-delà de ça aussi. Ça dépend aussi des peintures de la personne d'en face aussi. Parce que j'ai pas non plus envie de ruiner tout le monde et en même temps j'ai pas envie de les vendre à bas prix non plus. Du coup, c'est vraiment un cercle vicieux en fait. Ouais. C'est très compliqué. Du coup, à chaque fois, souvent je donne le prix au dernier moment, un peu sous la pression, la panique, mais faut que j'y travaille parce que.
c'est vrai que c'est pas évident, d'autant que a priori il n'y a pas beaucoup d'artistes peintres qui sont, à moins d'être tout à fait cynique, mais qui sont inspiré par cette carrière-là pour l'aspect purement marchand ou mercantile, donc a priori, c'est pas quelque chose qui vient naturellement aussi.
Ouais, non, pas du tout.
Et alors justement, tu parlais d'Instagram, est-ce que c'est quelque chose dont tu te sers, outre l'aspect vernissage et exposition qui peut y avoir, c'est quelque chose dont tu te sers beaucoup pour diffuser ton œuvre? Est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel tu as beaucoup de retours, beaucoup de gens qui te suivent?
Ouais, au début j'étais pas très réseaux sociaux, puis finalement j'ai créé un compte histoire de montrer quelques peintures. J'avais que mes amis au début dessus, et petit à petit il y a plusieurs artistes qui ont commencé à me suivre. Du coup, c'était intéressant d'avoir des retours et aussi de voir d'autres créations d'artistes. Et je trouve que Instagram, enfin, du moins pour promouvoir son travail, c'est plutôt intéressant. Parce que j'ai eu pas mal du coup de retours. Ça donne une visibilité aussi à mon travail, parce que c'est vrai que pendant les expositions, du coup, c'est quand même pendant une durée sur un lieu précis. Donc finalement, là, pour le diffuser, c'est rapide, en deux clics, de toute façon. Et grâce à Instagram, du coup, j'ai eu des commandes, des ventes et aussi des propositions pour exposer. Donc
D'accord.
finalement, c'est un bon outil de communication. Et voilà.
Ça te permet toi comment dire, de jouer un peu en complément sur l'aspect où tu disais exposition, où finalement c'est très limité, même géographiquement, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand tu fais une exposition dans le 9e arrondissement, il y a peut-être beaucoup de gens même qui aimeraient pouvoir venir et finalement c'est pas toujours. Instagram, tu t'en sers pour ce but-là. Et justement, qu'est-ce que je veux dire pour faire suite à ce que tu disais à l'instant, tu parlais de tes projets. Est-ce que moi, ouais, c'était ça la question. L'introduction est compliquée, mais la question est simple. Toi, quels sont tes projets actuels? C'est-à-dire, est-ce que alors actuel ou même de façon un peu générale, est-ce que toi tu peins en permanence? Qu'est-ce que tu as une certaine discipline ou au contraire tu laisses un peu ta créativité te gouverner là-dessus et voir quand les idées s'impose à toi? Comment ça se passe, ton processus?
Alors déjà, j'ai toujours plein d'idées en tête. Là, je dois en avoir 4 ou 5. C'est juste le temps qui manque, je pense.
On va abréger l'émission si tu veux pour que tu retournes peindre. Je voudrais pas te tenir trop loin de tes pinceaux.
Mais du coup, oui, bah, ces temps-ci, là, je suis en train de finir une de mes peintures. J'en ai déjà une de peinte, mais seulement dans ma tête. Du coup, il faut que je le fasse directement sur la toile. Sinon, j'ai aussi un projet de broderie.
D'accord.
Et sinon, pour ce qui est des expositions, j'ai répondu à un appel à projet
D'accord.
que j'ai aussi du coup trouvé sur Instagram, où ça se diffuse assez rapidement, les informations comme celle-ci.
C'est quoi comme appel à projet?
C'est à la Sorbonne,
Très bien.
et c'est une association qui s'appelle Avis de Tempête. Du coup, ils font un appel à projet. Du coup, j'y ai répondu, j'attends les réponses là pour l'instant, mais voilà.
Super. Et et par ailleurs, tu parlais de certaines d'autres choses. Il y a des expositions que tu prépares?
Non, pas pour
Pas encore?
l'instant. Non, non.
D'accord.
Du coup, là, ouais, c'est ça. J'attends la réponse pour cet appel à projet. Et puis, il faut que j'aille démarcher un peu plus.
D'accord. On a beaucoup parlé de peinture jusqu'ici, mais toi, tu pratiques également d'autres activités. Tu parlais de broderie à l'instant. Il me semble que tu fais également de la sculpture. Alors, tu disais que tu peins beaucoup, donc je ne sais pas si ça te laisse beaucoup de temps pour ces activités-là. Comment ça se passe, tes activités de ce côté-là?
Pour la broderie, par exemple, ce qui était intéressant, c'est que je vais commencer à broder un petit peu, je vais peindre, le temps que ça sèche, je vais recommencer à broder. Du coup, je faisais deux projets à la fois. Puis après, c'est une broderie qui m'a pris quand même pas mal de temps. Du coup, même quand je me retrouvais devant un film, une série, qu'importe, je me mettais à broder. Finalement, ça devenait un peu machinal, mais c'était quand même plaisant de faire quelque chose de ses mains. Et pour les sculptures, du coup, j'en ai fait quelques-unes. Et pour celle-ci, en fait, ce sont des souches de bois
D'accord.
que moi ou mon papa ont trouvé enfin, avons trouvé du coup dans les champs. Je suis venu créer des socles en métal et j'ai repris du coup toujours la même technique avec de la peinture pour peindre directement sur la souche. Du coup, ça donne des résultats un peu animalesques, un peu étranges, un peu dérangeants. Et sinon, j'ai également fait du body painting où j'ai
D'accord.
utilisé encore une fois cette technique. qui me hante. Sur bah, du coup, des amis où je suis venu les photographier par la suite pour vraiment rendre un résultat photographique pour le coup.
D'accord. Et alors, justement, entre les différentes disciplines et notamment entre la peinture et la sculpture, quand tu as une idée et qu'elle commence à prendre forme dans ta tête, à quel moment est-ce que tu te dis ça, je vais plutôt privilégier la peinture, ça rendrait plutôt mieux en sculpture, voire dans même du body painting, comme tu disais à l'instant. Finalement, est-ce que ça s'impose à toi, le choix se fait, te paraît évident, comment ça se passe?
Bah, souvent quand j'ai une idée d'un récit ou d'un moment précis, je sais pas, de flânerie par exemple, je vais plutôt le retranscrire sur la toile. Pour les sculptures, ça se fait dans le sens inverse. Je vois l'objet, là par exemple les souches de bois, et je me dis je vais pouvoir en créer quelque chose. Du coup, c'est en voyant du coup cet objet que j'ai l'idée de créer quelque chose. Contrairement aux peintures sur toile.
D'accord. Donc là, finalement, oui, tu vas partir de l'objet comme tel pour créer ton œuvre plutôt que d'une idée purement qui surgirait un peu dans ta tête, on pourrait dire.
Oui, c'est bien ça. Ouais.
D'accord. Très bien. Et alors, je vais te poser la question que je pose à chacun et chacune de mes invités à la fin de chacune de mes interviews. Peux-tu partager avec notre audience une œuvre artistique qui te tient particulièrement à cœur ?
Je pourrais parler d'une peinture de Hernán Bass. Mmh. C'est un artiste américain qui vient de Détroit. Du coup, lui, dans ses peintures, il va représenter la beauté masculine, où on va retrouver des individus entre l'adolescence et l'âge adulte, toujours avec une esthétique androgyne. Ces personnages sont un peu figés, un peu on retrouve une moue un peu triste, on dirait qu'ils sont vraiment dans un moment de flânerie. Je sais qu'il y a une peinture qui s'appelle Adult Security Blanket. Oui, excusez mon accent anglais. D'ailleurs, j'ai cette affiche dans ma chambre. Et du coup, face à cette peinture, on se retrouve devant un personnage qui est assis. Les couleurs, c'est notamment du bleu, du noir, donc des couleurs quand même très foncées. Ce personnage est habillé en noir, mais pour le coup, il a un visage très blanc, très pâle. Et ses mains qui sont posées sur ses jambes sont de la même couleur que son visage. Mais de loin, ce que je veux dire, c'est qu'on aperçoit vraiment les membres de ce corps. Ce personnage est un regard qui nous tient, qu'on soit en face, à gauche, à droite, il ne nous lâche pas du regard, ce qui est assez intriguant, mais j'aime beaucoup cet artiste. Et dans d'autres de ses peintures, il représente toujours ses personnages un peu dans des scènes très exubérantes, luxuriantes, que ce soit dans la nature ou alors même dans les salons de maison, où on va retrouver plein d'objets de décoration. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Tu ne sais plus où poser le regard et tu es face quand même à ces personnages qui te regardent avec insistance. Du coup, c'est un peu perturbant. Tu perds un peu le sens, mais j'aime beaucoup ce qu'il représente.
Ça, tu disais, c'est un peintre qui s'appelle ?
Hernán Bass.
D'accord. Donc, oui, effectivement, donc tu... Ça rejoint un peu ce que tu disais à propos de tes peintures, puisque tu parlais de mélancolie, de représentation de l'anatomie du corps, donc tout ça est un peu lié. Alors, on a longuement parlé de ton compte Instagram et de ta présence sur Internet et sur les réseaux sociaux, comme on pourrait le dire. Tu es trouvable... Alors, tout ça est bien sûr disponible sur la page de l'émission, mais tu es trouvable, ta page Instagram, c'est JB Boulbin également.
C'est projet-8 JB-JIBE-8 Boulbin BOULBIN.
D'accord. Et tu disais ton portfolio n'est pas forcément visible puisque ce n'est pas quelque chose que tu rends. Mais sinon, donc c'est sur ce compte Instagram qu'on peut visualiser l'ensemble de tes peintures. Est-ce qu'elles y sont toutes ou pas encore ou pas? Tu fais du teasing, comment?
Non, elles sont quasiment du moins toutes celles que j'ai créées sont dessus. Après, là par exemple, je suis encore en train de terminer une qui va être sur mon compte dans les prochains jours. Donc ça se fait petit à petit, quoi.
Très bien, tu l'alimentes.
C'est un résumé de mes créations.
Super. JB Boulbin, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à l'émission. Et quant à moi, je vous dis...